affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de cette semaine, il sera question d'un sujet qui intéresse beaucoup les Français et qui souvent aussi les inquiète. Nous allons en effet parler d'économie et plus particulièrement, nous allons évoquer les faiblesses structurelles de l'économie française. Nous n'allons pas le faire bien sûr par masochisme, par goût du déclinisme, mais parce que, comme le savent tous les médecins, pour traiter le mal, il faut d'abord l'identifier, il faut poser un diagnostic. Et c'est bien ce que nous allons faire avec un invité de marque. Nous recevons en effet aujourd'hui dans nos studios Jacques Delarosière. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, Jacques Delarosière, occupé les fonctions de directeur du Trésor, de directeur général du Fonds monétaire international, de gouverneur de la Banque de France. Enfin, vous êtes bien sûr également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et tout récemment encore, vous avez rendu un rapport remarqué sur la réglementation financière suite à la crise que chacun connaît bien. Voilà qui nous plonge d'ailleurs au cœur de notre sujet. Depuis que cette crise économique et financière a éclaté, il semble en effet que se développe un discours tendant à laisser croire que les difficultés rencontrées par l'économie française s'expliqueraient avant tout par cette crise, par le reflux de la croissance mondiale. Et voilà que vous venez dans nos studios pour nous parler des faiblesses structurelles de l'économie. Est-ce à dire alors, Jacques Delarosière, que le mal serait aussi en nous ?
Oui, je crois que vous avez très bien posé le sujet. L'économie française a de grandes forces, mais l'économie française a aussi des faiblesses. Et ces faiblesses sont malheureusement structurelles. Je vais essayer de centrer mon propos cet après-midi avec vous sur la notion de compétitivité. On dit d'une économie qu'elle est compétitive lorsqu'elle peut exporter, sans l'appui de subventions publiques, sur le marché mondial, et qu'elle n'est pas contrainte de préférer systématiquement des produits ou des services importés de l'étranger, de préférence à des biens ou des services domestiques qui seraient trop coûteux. Il est normal que certaines économies, notamment celles qui ont des retards structurels à rattraper du fait de leur faible développement antérieur, connaissent des déséquilibres commerciaux. Ils importent des biens d'équipement, par exemple, pour se doter d'une industrie. En principe, les entrées de capitaux à long terme, que ce soit des prêts ou du capital qui permettent de financer ces importations, permettent à terme d'atténuer les déséquilibres structurels et au contraire d'arriver à un équilibre durable. Mais lorsqu'un pays industrialisé, comme la France, accumule pendant de longues périodes des déficits répétés de sa balance courante extérieure ou de sa balance commerciale, on observe là le symptôme de ce qui peut être un véritable problème de compétitivité. Alors, si nous prenons le cas de la France, ce que nous allons faire maintenant, je crois que nous devrions examiner successivement d'abord l'état de nos soldes extérieurs, c'est-à-dire de notre balance des paiements. Deuxièmement, les raisons de ce déficit malheureusement prolongé que nous constatons. Et troisièmement, les mesures qui seraient propres à restaurer la compétitivité de notre pays.
Eh bien, volontiers. Et je vous propose donc de commencer par l'examen des symptômes, puisque nous avons pourfilé la métaphore médicale.
Tout à fait. Alors, prenons le symptôme le plus fréquemment observé en cas de faiblesse de compétitivité, c'est celui du solde extérieur. Parce que c'est vraiment le premier test. Si on n'est pas capable d'exporter parce qu'on est trop cher, par exemple, ben on n'exporte pas.
Et dans une économie mondialisée, c'est un problème.
Dans une économie mondialisée, ça pose problème. Alors, regardons un peu cette affaire de solde extérieur. Si un pays, il faut bien comprendre pourquoi c'est important, si un pays importe systématiquement plus qu'il n'exporte, ça peut être le signe d'une faiblesse de compétitivité et ça joue sur la production destinée au commerce extérieur, c'est-à-dire aux exportations. Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement une vision de technicien, ce que je viens de dire. On pourrait me dire, oui, mais oui, d'accord, la balance des paiements est en déficit, et alors ? Et pas et alors. Le fait d'importer d'une manière durable plus que l'on exporte, il faut comprendre que ça ne favorise pas l'emploi. Les produits importés sont en réalité des heures de travail effectuées à l'étranger et que nous importons. Et ce que nous n'exportons pas, parce que nous ne sommes pas suffisamment compétitifs pour l'exporter, ce sont des heures de travail que nous ne faisons pas à la maison et qui disparaissent. Donc il y a un rapport très, très, très clair entre, d'une part, l'état de la balance des paiements et, d'autre part, la question de l'emploi. On dit d'ailleurs, dans le langage économique, que les exportations, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne, contribuent au plein emploi en Allemagne, et on peut le mesurer. Et nous pouvons dire aujourd'hui que l'insuffisance de nos exportations contribue à notre chômage. Donc c'est une question qui est vitale.
Oui, c'est une question qui n'est pas comptable, mais qui est un reflet de l'économie réelle.
Tout à fait. Alors, regardons rapidement, parce que je ne veux pas vous asséner trop de chiffres.
Regardons. Oui, mais les chiffres sont importants en la matière.
Oui. Alors on va essayer de les regarder pour cette affaire du solde extérieur. La conception la plus vaste, la plus embrassante du solde extérieur, c'est ce qu'on appelle la balance des paiements courants. Elle regroupe à la fois les marchandises qu'on exporte et qu'on importe, les services, dont le tourisme, qui est très important, et un certain nombre de flux financiers qui sont moins connus, mais qui sont importants aussi. C'est, par exemple, les transferts de salaires qu'un certain nombre de travailleurs immigrés transfèrent vers leur famille d'origine à l'extérieur. Ça peut être aussi les revenus nets, les dividendes nets que l'on perçoit des actifs qui ont été accumulés par des agents français à l'étranger. Cette conception la plus large de la balance des paiements s'appelle la balance des paiements courants. Elle est courante, cette balance des paiements, en ce sens qu'elle n'embrasse pas les mouvements de capitaux qui, eux, ont un caractère qui n'est pas courant. Le déficit français de cette balance courante est de l'ordre de 2% du produit intérieur brut, un peu plus depuis 5 ans. C'est là une indication qui est assez préoccupante. Un déficit de l'ordre de plus de 2% qui se répète d'année en année au niveau des flux courants est assez préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que la partie biens et services de cet ensemble large que j'indique est malheureusement, dans le cas de la France, en plus grand déficit et de manière plus prolongée.
Oui, or c'est celle-ci qui reflète le mieux l'économie réelle, car si je comprends bien, les revenus issus d'actifs cumulés à l'étranger par des Français, c'est de l'ordre de la rente.
Tout à fait. C'est le retour, si vous voulez, sur des stocks d'investissement. Tandis que si on veut affiner le problème au niveau de la compétitivité, il faut entrer vraiment dans ce qu'on appelle la balance commerciale. Alors la balance commerciale, c'est la balance des marchandises et aussi la balance des services.
Qui là reflète l'activité.
Qui reflète vraiment une activité économique. Alors le déficit commercial français se situe aujourd'hui autour de 70 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 3% du PIB. Vous voyez que c'est plus important que la balance courante. Et malheureusement, ce qui est plus important, c'est que ce déficit est en dégradation continuelle depuis 2003. Pour les biens seuls, c'est-à-dire les marchandises, on voit que au cours des années 1995 à 2002, la France était en excédent et à l'équilibre, ou à l'équilibre. Donc entre 1995 et 2002, il n'y a pas tellement longtemps finalement, la France avait un léger excédent au niveau des marchandises. Et malheureusement, depuis quelques années, depuis 5 ans à peu près, nous sommes maintenant passés de l'équilibre au déficit et nous en sommes à moins 75 milliards d'euros par an de déficit des biens.
Alors si cela fait 5 ans, ça correspond quand même avec le moment du déclenchement de la crise économique et financière. Est-ce que ça ne tend pas à laisser croire que finalement oui, elle joue un rôle important dans le creusement de ce
déficit ? Elle joue certainement un rôle, mais je vous dirais que pendant cette même période, l'Allemagne, qui a aussi subi les conséquences de la crise, a vu se décoller son surplus de balance de courante et de biens, qui atteint aujourd'hui 7% du PIB. Donc ce n'est pas une réponse suffisante. Nos parts de marché, et ça c'est très important, parce qu'on pourrait imaginer que notre balance s'est détériorée parce que, comme vous l'avez dit, la conjoncture s'est détériorée. Donc on exporte moins parce qu'il y a moins de demandes à l'étranger. Si c'était ça, on pourrait en effet se rassurer, mais nos parts de marché, qui mesurent bien notre compétitivité, parce qu'il y en a d'autres qui gagnent des parts de marché pendant que nous en perdons, nos parts de marché à l'exportation ont baissé depuis 2003, c'est-à-dire depuis 10 ans, pour atteindre le point bas aujourd'hui, il y a quelques années. Il y a eu une légère remontée en 2012, mais enfin, c'est encore très, très négatif. La part des exportations françaises de biens et de services, c'est-à-dire de marchandises et de services, dans les exportations de la zone euro, baisse continuellement depuis 2000. Elles étaient à 18%, la part française dans le total des exportations de ces pays. Elles ne sont plus qu'à 13%. Et si vous prenez la part des marchandises françaises exportées dans les exportations mondiales, vous voyez que notre part s'est effondrée, malheureusement, depuis 1990. Elle était de près de 7%. Elle est aujourd'hui à peine supérieure à 3%. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement continu de dégradation des soldes extérieurs. Et ceux qui disent ce n'est que de la conjoncture et puis le fait que les produits pétroliers sont chers sont des gens qui, en fait, nous trompent. Parce que la vérité, elle est malheureusement dans le caractère continu de notre dégradation et de notre dégradation par rapport à d'autres qui se dégradent moins ou qui ne se dégradent pas du tout. Alors voilà, si vous voulez, pour le constat extérieur. Et je crois qu'il faut essayer de pénétrer dans les raisons qui expliquent cette détérioration.
Oui, car il ne suffira pas d'attendre le retour de la croissance mondiale pour que les choses s'arrangent. Elles arrangeraient probablement un petit peu les choses, mais à la marge et sans résoudre.
Ceux qui pensent qu'un retour à la croissance mondiale, qui est encore d'ailleurs assez problématique, parce que les tendances sont assez molles et décourageantes, ceux qui pensent que c'est le retour à la croissance mondiale qui sortira la France de cette situation malheureusement ancrée de perte de parts de marché, je crois, se trompent et surtout trompent leurs électeurs. La vérité, c'est que nous perdons de notre compétitivité à l'exportation, que cela entraîne une moindre croissance de l'emploi et plus de chômage, et que c'est un problème tout à fait majeur. On a un peu tendance à se concentrer sur le problème du déficit du budget, des comptes publics, et un peu tendance à ne pas trop s'occuper de la balance commerciale de biens et de services. Je crois qu'il faut un peu, je dirais, rééquilibrer la perspective et s'occuper aussi de l'extérieur. Alors, les raisons de cette dégradation sont bien connues, et je vais les résumer en quatre points. La première, qui est la plus importante du point de vue de son effet quantitatif, c'est que le coût du travail en France est significativement plus élevé qu'il ne l'est dans les pays concurrents. Ce n'est pas la productivité du travail qui est en cause. En fait, la productivité horaire, c'est-à-dire la quantité de biens produite en une heure de travail par un ouvrier français, la productivité horaire de la France est plutôt favorable du point de vue de la comparaison, notamment avec l'Allemagne. Mais ce qui se passe, c'est que, en termes de coûts salariaux, la France a perdu beaucoup de terrain par rapport à nos concurrents, et notamment par rapport à l'Allemagne, depuis une dizaine d'années. Si vous partez de l'indice 100 en 2000, pour faciliter la comparaison, c'est-à-dire que vous photographiez la situation du ce que j'appelle le coût unitaire de salaire en 2000, et que vous le regardez aujourd'hui, en 2013, vous avez donc une évolution à partir d'un indice 100. Et vous voyez que en France depuis 2000, notre coût actuel est à 150, c'est-à-dire qu'on est passé de 100 à 150. Oui, mais il y a de l'inflation là-dedans. Ce n'est pas que du réel, c'est beaucoup d'inflation. Parce que c'est quand même sur 13 ans que se situe cette statistique. Mais, si vous regardez la même photographie sur l'Allemagne, vous voyez que partant de 100 également en 2000, ils ne sont qu'à 128 en coût unitaire aujourd'hui.
Et le coût augmente partout, mais beaucoup plus rapidement chez nous.
Il augmente plus rapidement chez nous.
Comme c'est une affaire de compétition, ça suffit à nous déstabiliser.
Ah oui, parce que si vous avez une entreprise qui avait 100 et puis maintenant à 150 et qu'elle regarde sa compétitrice allemande qui avait 100 et qui a 128, il est évident qu'un élément important du coût de la production, qu'elle travaille, joue un rôle important. Et non seulement les coûts unitaires de main-d'œuvre ont augmenté en France plus que dans certains pays concurrents comme l'Allemagne, mais la durée du travail a diminué, comme vous le savez. Il y a une durée du travail qui se réduit un peu de manière séculaire, si je puis dire, avec les avances en matière de technologie et de productivité, mais la pente française de la réduction de la durée du travail est particulièrement forte. Par exemple, en 1995, en moyenne, on travaillait 1600 heures par an, nombre d'heures travaillées par an. Ces 1600 sont devenus 1480 en 2013. Je n'ai pas les chiffres comparatifs avec d'autres pays pendant la même période, mais les évolutions sont moins prononcées.
Et oui, parce qu'en l'espèce, il ne s'agissait plus, vous me contredirez si je me trompe, mais de prendre en compte les avancées technologiques et ce qu'elles permettent, mais il y avait un objectif quasi utopique de faire advenir une société du loisir.
Oui, alors c'est très bien la société du loisir, mais il faut encore que les gens qui prennent des loisirs aient un emploi. Et malheureusement, là, on a probablement été un peu fort en matière de réduction du nombre total d'heures travaillées. Un des éléments les plus frappants de cette hausse des coûts salariaux en France est la part des cotisations sociales qui sont payées par les entreprises et par les travailleurs d'ailleurs sur leur bulletin de salaire. Le deuxième élément qui explique cette insuffisante compétitivité de l'économie française, c'est sans nul doute le coût élevé de l'administration publique. Vous savez qu'en France, les dépenses publiques représentent à peu près 57% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la production totale du pays pendant un an. En Allemagne, ce chiffre est de 47%. Cette différence de 10 points de PIB est évidemment considérable. Et il faut savoir que cette différence doit être financée. Et elle est financée en partie par l'emprunt, ce qui explique la persistance de notre déficit public, mais elle est financée aussi par la charge fiscale. Et la charge fiscale en France est une des plus lourdes des pays de l'OCDE. Les impôts et les taxes en France représentent 46% de notre PIB. Et c'est très supérieur à ce qui se passe dans des pays voisins. Et évidemment, cette surcharge fiscale pèse sur les coûts de compétitivité. Parce qu'il faut bien la mettre quelque part, cette charge fiscale. Et on la met dans le coût de la production. Je voudrais dire un mot ici des déficits publics. C'est le troisième élément qui explique ces phénomènes structurels. Les déficits sont élevés, comme ils le sont dans beaucoup de pays. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des déficits publics élevés. Mais ce qui m'inquiète un peu dans le cas de notre pays, c'est l'importance de l'élément structurel. On dit beaucoup que les déficits sont élevés parce que la conjoncture est mauvaise. Et en effet, quand la conjoncture est mauvaise, il y a moins de ressources fiscales parce qu'il y a moins de revenus et il y a plus de dépenses de redistribution parce qu'il y a plus de chômage. C'est normal. Donc la mauvaise conjoncture entraîne plus de déficits. Mais il ne faut pas se satisfaire de cette explication parce qu'elle n'est pas la seule explication. Il y a malheureusement derrière, à l'intérieur d'un déficit comme le nôtre, un élément structurel, c'est-à-dire un élément qui échappe au changement de la conjoncture immédiate et qui procède de déséquilibres persistants à l'intérieur de notre système. Et malheureusement, dans notre déficit, je vois que la France, par exemple, est à moins 3,7% de déficit structurel, alors que l'Allemagne a un léger excédent structurel de 0,5%. Autrement dit, nous avons 4 points de PIB de différence avec l'Allemagne du point de vue de la structure même de nos dépenses et de nos recettes publiques. Alors c'est un élément important et je crois qu'il ne faut pas le minimiser. Et le dernier élément sur lequel je voulais dire un mot, en ce qui concerne les causes de cette faiblesse de notre compétitivité, qui est un élément très important à la vérité, ce sont les marges des entreprises. Les marges bénéficiaires des entreprises n'ont cessé de se dégrader.
C'est un petit peu aussi la résultante de ce qu'on a vu
tout à fait.
Avant, non ?
C'est une résultante et c'est en même temps une cause. C'est une résultante parce que vous avez tout à fait raison de le dire. Le fait d'avoir trop d'impôts à payer, d'avoir trop de charges sociales à payer par rapport aux concurrents de l'extérieur fait que vous avez moins de marge parce que vous puisez dans vos marges bénéficiaires pour payer tout ça. Et quand vous avez moins de marge, je vous signale que les entreprises françaises sont au plus bas historique de leur marge de bénéficiaires. Quand vous avez peu de marge, ben vous n'avez pas beaucoup de place pour penser à l'investissement, à l'innovation et à l'accroissement de votre productivité. Et malheureusement,
or, dans une économie mondiale ultra compétitive, ultra concurrentielle, et notamment face à la concurrence de pays qui ont des bas coûts de main-d'œuvre, j'imagine que de surcroît, on nous a expliqué, en tout cas pendant des années, que l'innovation était le salut. Mais alors, si on empêche les entreprises de se lancer dans l'innovation, que nous reste-t-il ?
Alors, vous avez parfaitement raison. Si vous n'avez pas de marge suffisante, il est très difficile d'innover. Et si vous êtes braqué sur le fait que vous allez pouvoir faire votre trésorerie le lundi matin et que vous avez un peu la panique pendant le week-end, ça veut dire que vous ne pouvez pas réfléchir à l'investissement que vous devez faire pour pouvoir étendre votre marché dans les 2 ou 3 années qui viennent. Et c'est ça dont souffre une grande partie de l'économie française. Pas les grandes entreprises du CAC 40, parce que celles-là sont déjà internationalisées à hauteur, je dirais, des 3/4, voire plus de leur chiffre d'affaires. Ce sont déjà des entreprises mondialisées. Mais c'est vrai ce que je dis, le problème des marges pour les entreprises moyennes, les entreprises petites, et ces entreprises-là sont particulièrement vulnérables. Je lisais dans Le Monde l'autre jour que près de 44 000 entreprises françaises, ce sont des moyennes et des petites, ont été rayées de la carte ces 12 derniers mois. Alors ça fait réfléchir.
C'est dramatique. Et encore faudra-t-il peut-être y adjoindre celles qui ne peuvent pas croître.
Oui,
car lorsqu'on n'a plus de
marge...
Tout à fait,
parce que ça c'est celles qui disparaissent, mais il y en a qui stagnent. Vous avez raison. Alors, ayant dit cela, je pense que l'auditeur sera peut-être un peu... comment dirais-je, un peu stressé, un peu découragé. Alors, oui, je voulais peut-être, avant d'aborder la conclusion, dire un mot de la désindustrialisation.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font peur, et notamment celui-ci, et qu'on entend de plus en plus depuis dans la même période.
Alors, je crois qu'il faut terminer le diagnostic par la désindustrialisation, qui est un des éléments. Je n'ai pas su le mettre dans les causes, parce que je pense que c'est plus une résultante de ce que j'ai décrit qu'une cause, mais ça a accompagné le phénomène de la détérioration de notre compétitivité. Je vais juste donner une indication de cette désindustrialisation. Alors, il faut bien comprendre, je ne dis pas qu'il faille avoir une industrie prédominante dans une économie. Les services, c'est très important aussi. Mais il est d'expérience que si vous n'avez pas un socle industriel, manufacturier suffisant, vous êtes plus vulnérable aux atteintes de la crise et de la conjoncture. Quand on regarde l'industrialisation française dans une perspective un peu longue, on voit que la désindustrialisation est très, très forte et que l'ampleur de cette désindustrialisation s'est accélérée à partir du milieu des années 80. Je vais juste vous donner deux chiffres qui sont assez parlants. En 1950, 5 ans après la guerre, la France commençant à se reconstruire, la valeur ajoutée, parce que c'est la meilleure manière de calculer, si vous voulez, l'industrialisation, la valeur ajoutée totale de l'industrie, c'était 30%, un petit tiers, de la valeur ajoutée totale de l'économie française. Eh bien, aujourd'hui, ces 30% sont devenus 13%. Alors, vous voyez que notre gros pilier, presque un tiers de l'économie française, est devenu maintenant un petit pilier qui fait 13%. Et ça, c'est quelque chose qui est très documenté, très expliqué. Et malheureusement, c'est une des raisons adjacentes, ou plutôt une des conséquences de la moindre compétitivité que j'indiquais il y a un instant. Alors, on peut peut-être...
Est-ce que ça n'a pas été aussi une résultante d'un discours qui était très à la mode il y a encore 5 ans, où on vantait le passage à une économie tertiaire, on parlait d'une économie du quaternaire, on tendait à laisser croire que l'immatériel, dans une sorte de discours un petit peu futuriste, l'immatériel allait s'emparer de l'ensemble de nos vies et il suffirait bien. On oui. est complètement revenu de tout cela.
Vous avez raison, il y a eu un phénomène de mode qui a accompagné cette désindustrialisation. Je me demande si la mode n'était pas brandie un peu comme un prétexte
justification.
Pour justifier et apaiser les craintes de ceux qui perdaient leur emploi dans le secteur industriel traditionnel. Qu'il y ait eu des changements technologiques très importants, et numériques en particulier, qui expliquent en partie ce phénomène, c'est inévitable, et c'est vrai. Mais je crois que le passage de 30 à 13, lorsqu'on mesure d'autres économies, est quelque chose de très inquiétant. On peut pas rester sur cette évolution sans s'en préoccuper. Je regarde en Allemagne, par exemple, les 13%, eh bien, c'est 19%. Ils sont plus à 30, mais ils ne sont pas à 13. Et donc, je pense qu'on a été trop loin dans le domaine de la désindustrialisation, dans l'hémorragie de l'emploi industriel. Et donc, il y a peut-être des problèmes de mesure, parce qu'il y a certains aspects, si vous voulez, des services aujourd'hui qui pourraient être recatégorisés dans la catégorie industrielle, parce que ce sont des parts de services qui sont très fortement informatisé, on pourrait dire que dans une économie plus traditionnelle, c'était de l'industrie. Je veux bien, mais il reste que le socle industriel traditionnel de notre pays s'est réduit, alors que dans d'autres pays, il se réduisait beaucoup moins. Voilà. Voilà un peu comment je vois la situation.
Voilà le diagnostic.
Oui, voilà le diagnostic.
Alors, y a-t-il des remèdes ?
Oui, alors c'est là que vous m'attendez, cher ami.
Mais je ne suis pas le seul à vous attendre. La population entière attend des remèdes.
Je sais, mais c'est vous que j'ai en face de moi, alors c'est vous que je regarde. Et c'est tout à fait justifié de dire, après ce diagnostic, qui est plutôt un peu consternant, y a-t-il des voies de succès ? Alors, et de réforme ? Alors, je réponds tout de suite que oui. Et je réponds d'abord, avant d'engager la discussion sur quelles sont les réformes possibles, je voudrais d'abord rappeler que la France est un pays qui dispose de beaucoup d'atouts. C'est pas du tout un pays où tout va mal. C'est un pays d'abord qui est géographiquement très bien placé. C'est un pays qui est un pays d'ancienne et de grande culture. C'est un pays dont la beauté naturelle des paysages est un atout phénoménal en matière de compétition internationale. C'est un pays...
Y compris des paysages urbains, d'ailleurs, parce que ça ne nous a pas seulement été donné.
Absolument, y compris les paysages urbains et de ses monuments. c'est un pays qui a une infrastructure très, très développée, très au point. Si vous prenez par exemple le système de transport en France, que ce soit le réseau des autoroutes, que ce soit le réseau ferré, vous voyez que c'est un des pays qui est parmi les plus avancés du monde. C'est un pays dont la protection sociale est exemplaire, elle est coûteuse. Il y a probablement beaucoup de choses à faire pour la rendre moins coûteuse et pour redistribuer d'une certaine manière le coût du financement. Mais c'est un système qui est considéré comme très protecteur et cher, certes, mais moins cher que chez certains autres pays dont le système de protection est beaucoup moins efficace. C'est le cas des États-Unis qui dépensent en termes de PIB deux fois ce que nous dépensons pour une protection sociale très inférieure. Donc il ne faut pas toujours dénigrer ce que fait notre pays. Mais il reste que ce pays, qui a de grands atouts et qui est un grand pays, souffre depuis pas tellement longtemps, tout ce que je vous ai dit c'est depuis le début des années 2000, souffre depuis une dizaine, douzaine d'années d'un certain nombre de déficiences ou de maux qui sont correctibles. Alors ça c'est un élément d'espoir. Au début des années 2000, nous étions le pays exportateur en Europe. Nous avions un excédent de notre compte courant et de notre balance commerciale. Qui était le pays d'Europe qui était déficitaire en matière commerciale? C'était l'Allemagne, dont on disait à l'époque qu'elle était le pays malade de l'Europe. Donc c'est une situation qui s'est renversée. Et pourquoi s'est-elle renversée? Je crois qu'elle s'est renversée parce que l'Allemagne a pris conscience de cette pente négative en matière de croissance et en matière de compétitivité qu'elle subissait à l'époque, au début des années 2000, et que le chancelier Schröder a eu le courage politique de faire une réforme en profondeur et des retraites et du fonctionnement de la flexibilité sociale et des finances publiques, qui a fait que ce pays, très rapidement, au milieu des années 2000, s'est rétabli. Et qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'Allemagne bénéficient des réformes de M. Schröder, qui lui ont d'ailleurs coûté sa réélection peu de temps après qu'il les ait eues introduites. Donc, si vous voulez, il faut mettre ça en perspective. Quand vous avez un phénomène de dégradation qui dure depuis 8 ans ou 10 ans, et qu'il avait été précédé par une période plutôt positive en matière de compétitivité, rien n'est perdu pour toujours. Ce que l'on a défait en quelques années, on peut le refaire. L'Allemagne l'a montré, beaucoup d'autres pays l'ont montré. J'aurai des exemples innombrables de pays qui ont redressé la pente en quelques années, 5, 6, 7, 8 ans, moins de 10 ans. Et donc, je crois que la France peut parfaitement le faire. Elle peut regagner sa place dans les parts de marché européennes et mondiales. Elle peut rétablir de l'emploi à travers les exportations. Mais pour ça, il faut qu'elle s'adresse au problème que j'ai identifié tout à l'heure dans ce que vous appelez justement le diagnostic.
Alors est-ce que le remède commence-t-il à être administré ou en est-on encore, là je sors du studio pour aller dans le monde réel, est-ce que ces remèdes commencent à être administrés ou on en est encore au stade du diagnostic ou même du débat?
Non, je crois qu'il faut être juste, il commence à être abordé par l'action, mais beaucoup trop modestement. Alors je vais prendre les points successifs très rapidement du diagnostic. Premièrement, le coût du travail. Le coût du travail reste plus élevé en France que chez nos partenaires. Il y a eu un effort qui a été entrepris par le gouvernement d'avant et repris par le gouvernement d'aujourd'hui, qui tend à transférer une partie des charges sociales très lourdes qui pèsent sur les entreprises et sur le travail vers une forme, disons, plus indirecte de l'imposition générale, de façon à soulager un peu le...
Ce qu'on appelle en langage courant la TVA sociale, c'est ça?
Si vous voulez. Alors ça n'a pas été fait tout à fait comme ça, mais ça consiste à, en effet, alléger sur les entreprises une part des cotisations sociales, à les transférer vers d'autres financements. Et là, dans le cas d'espèce, il s'agit d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire que les entreprises continueront de payer ces charges, mais recevront du gouvernement, au bout d'un an, une contribution, un chèque, si vous voulez, qui leur permettra de réduire leur contribution sociale. C'est une manière, je crois, très utile de rétablir un meilleur équilibre. Je pense que quand on regarde les chiffres de près, les mesures qui ont été introduites en France à cet égard sont encore insuffisantes pour rétablir une homogénéité suffisante et aussi pour rétablir des marges d'entreprise comparables à celles de nos concurrents. Donc il faudra aller plus loin dans cette direction. Deuxième élément,
c'est... Le remède est bon, mais il est encore trop homéopathique.
À mon avis, il n'est pas encore assez fort. Le deuxième élément qui frappe quand on parle de ces problèmes, c'est aussi la flexibilité en matière sociale. Il est important, quand vous êtes dans une économie ouverte, ce qui est notre cas, puisque nous sommes un marché ouvert à la concurrence étrangère, on n'a pas le choix, il est important que les entreprises qui produisent puissent, à certains moments, quand la conjoncture est plus difficile et que les carnets de commandes sont moins forts, puissent moduler sa durée de travail. Et ceci était très difficile à faire en France. Ça sera maintenant plus facile depuis l'accord social qui a été réalisé entre les principales, enfin entre un certain nombre de centrales syndicales et le MEDEF il y a maintenant une petite année. C'est un élément dont on n'a pas encore mesuré l'impact, parce qu'il faut voir comment ça va se passer au niveau des entreprises elles-mêmes, pas seulement au niveau de l'accord global. Mais c'est certainement quelque chose qui est positif. Le troisième élément, qui à mon avis n'a pas été suffisamment attaqué et abordé, c'est le problème de l'excès, j'utilise à bon escient ce mot, de la dépense publique française par rapport à nos concurrents. C'est les fameux 57% du PIB qui sont absorbés par de la dépense publique. Je crois qu'il y a 10 points de PIB de trop, qu'il va falloir réduire cette facture de dépenses publiques. Et là, ce que je vois dans les indications, si vous voulez, c'est que oui, on va le faire, mais on va le faire, si je puis dire, l'année prochaine.
Oui,
et ce que je voudrais, c'est que...
Ça fait de nombreuses années qu'on entend l'année prochaine.
Ça fait de très nombreuses années. Et si on est à 57, c'est qu'on nous a raconté beaucoup d'histoires dans le passage de 45 à 57. Et il faut maintenant arrêter et revenir. Alors, moi, je verrais volontiers, je l'avais proposé ici, je crois que c'était à Canal Académie, mais je verrais volontiers une sorte de défi national qui serait vraiment embrassé par la collectivité tout entière et qui consisterait à réduire, sur une période de temps d'ailleurs relativement longue, disons une dizaine d'années, ce que j'appelle l'excédent du déficit de la dépense publique, de l'excès de dépense publique, je ne sais pas, dizaines de points de PIB sur la période. Et il faut vraiment s'attaquer à ça. Nous avons un instrument en France qui est remarquable, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes connaît le fonctionnement des administrations par l'intérieur. Elle ne fait que ça. Elle examine les administrations du point de vue de leur productivité, du point de vue de leur efficacité. Parce qu'après tout, elle délivre un service au client. Et ce service au client, il n'y a aucune raison qu'il soit plus cher que le service qu'une entreprise particulière vous délivre. Et la Cour des comptes peut jeter des balises, des jalons très utiles pour le gouvernement, sur les poches de sous-efficacité de l'administration française et comment les résorber. Et là encore, on peut le faire sur une période relativement longue. Ce qu'il faut, c'est engager le processus et arriver à ce que l'économie française n'est pas ce boulet de 10 points de trop de PIB qui est arrimé à ses chevilles et qui l'empêche d'être gagnant dans la course internationale. C'est quelque chose qui, à mon avis, sera compris des Français. Et je pense qu'il faut le faire. Il y a beaucoup d'autres réformes structurelles sur le plan de la sécurité sociale, j'en ai dit un mot. Il y a des choses à réformer sur le plan des retraites, etc. Il y a des tas de choses qu'on peut mieux faire et sur lesquelles on peut agir. Mais commençons, s'il vous plaît, par les quelques points qui concernent le caractère concurrentiel immédiat, la compétitivité des entreprises françaises. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur ce diagnostic un peu sombre.
Oui, mais porteur d'espoir, parce que lorsqu'on apprend qu'on a une maladie, mais qu'aussitôt on nous apprend qu'il y a un remède et que donc l'on peut être guéri, généralement on sort du cabinet plutôt rasséréné. La seule chose finalement qui, à l'issue de l'exposé, m'inquiète un petit peu, nous fait sortir du domaine immédiat de l'économie pour entrer dans celui de prendre la politique au sens noble du terme. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a, semble-t-il, quand même une sorte d'accord général des experts dont vous êtes sur le diagnostic, que très vraisemblablement les décideurs politiques n'ignorent pas ni le diagnostic ni les remèdes, mais que pourtant pour des raisons qui tiennent peut-être à des choses d'ordre psychologique propres à notre pays depuis quelques années, ou de fonctionnement de nos institutions, ou de l'installation progressive d'une forme de défiance. Nous n'avons, semble-t-il, pas été capables de lancer plus tôt ces réformes, alors qu'on nous dit que même des pays de tradition relativement étatiste ou très protecteur, comme les pays scandinaves, l'ont réussi. C'est plutôt cet aspect-là qui m'interroge. Notamment, il y a une chose que je trouve frappante, c'est que dès lors qu'une réforme est lancée, si modeste soit-elle, il semble que dans la population, le premier réflexe soit de se dire « Est-ce que sur cette réforme, moi ou ma corporation, les miens, est-ce que j'y gagne ou est-ce que j'y perds ?» Alors, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais on a le sentiment que chez le voisin, il y a une plus forte appropriation spontanée du bien commun et de la volonté de s'en sortir ensemble, une forme d'esprit d'équipe qui les transcende et qui leur permet d'aller plus loin, plus avant et finalement, du coup, de mieux tolérer peut-être les sacrifices personnels pour se sauver.
Oui,
qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison, que vous avez mis le doigt sur l'aspect le plus difficile de toute cette question. C'est celui du consensus politique autour d'une politique de réforme qui est bonne pour la collectivité, tout en étant probablement dans ses composantes particulières négatives pour certains. Et c'est vrai qu'en France, nous avons l'esprit assez corporatif. C'est-à-dire que nous regardons une réforme du point de vue du sous-ensemble dans lequel nous sommes situés et de nos intérêts particuliers. Et que quand ça ne nous plaît pas, nous le disons. Et que nous avons peut-être moins que dans des pays comme les pays scandinaves que vous avez justement cités, l'esprit collectif qui consiste à dire « oui, c'est vrai, c'est un sacrifice pour moi, mais au total, la collectivité y gagne ». Et ça, c'est un état d'esprit qu'on a peut-être moins en France que dans d'autres pays. C'est un phénomène qui est très important. J'appelle ça le défaut d'anticipation de la démocratie française. Nous ne sommes pas la seule, mais nous sommes particulièrement visés dans ce que je dis là. Nous avons certes des institutions démocratiques, mais ce sont des institutions démocratiques qui ont tendance à fonctionner à un horizon de 5 ans. C'est-à-dire qu'on regarde la prochaine élection. Et certaines démocraties, comme celle que vous avez citée, dans le Nord, c'est vrai de la Suède en particulier, mais d'autres, ont une vue plus longue, plus anticipatrice des choses. C'est-à-dire qu'ils se disent, si je fais du déficit aujourd'hui et que je continue d'en faire, ça va s'accumuler dans une dette, et cette dette, dans 10 ou 15 ou 20 ans, sera très difficile à gérer, à servir et à honorer. Et donc, on anticipe. C'est-à-dire que le problème dans 20 ans devient un problème électoral d'aujourd'hui. Ça, c'est l'idéal d'une démocratie. C'est ce que disait Mendès France. C'est gouverner aujourd'hui, c'est prévoir. Et ce n'est pas prévoir pour demain, c'est prévoir pour dans longtemps. Alors, vous avez raison de dire ça. C'est certainement une des faiblesses de notre esprit public. Mais je pense aussi que si on explique aux Français, qui est un des peuples les plus intelligents du monde, si on lui explique des choses simples comme si la facture du coût du travail est trop chère par rapport aux voisins, on ne peut pas exporter. C'est des choses, ça ne demande pas d'être agrégé d'économie, ça. Si on explique les choses simplement, et que dans un esprit bipartisan, alors ça, je rêve un peu, mais moi, ce que je voudrais, c'est que l'ensemble des partis démocratiques se mettent d'accord sur un programme à long terme qu'ils pourraient intégralement assumer. Alors, je sais que c'est naïf de dire ça, mais si on pouvait se diriger, même modestement, vers une sorte de consensus en cas de crise, c'est quand même nécessaire. On le fait bien en temps de guerre. Et après tout, on est en temps de guerre économique. Si on pouvait se diriger vers un consensus où les particularismes politiques, si vous voulez, s'effacent un peu devant le bien commun, on arriverait à dominer le problème des particularismes et du scepticisme et de la sinistrose aussi qui s'insinue à travers nos concitoyens. Et donc, moi, je pense que c'est possible. Ça demande du leadership politique. Ça demande une capacité anticipatrice que nous n'avons pas toujours. Et parce que j'ai parlé, là, de problèmes de programme à 10 ans. Programme à 10 ans, c'est au-delà d'une législature, il faut y aller. Et je continue à avoir la naïveté, pour un homme de plus de 80 ans, à penser qu'après tout, c'est pas impossible.
Merci beaucoup Jacques Delarosière, et je partage votre avis. C'est l'avantage des crises, c'est qu'elles sont parfois salvatrices. Or, à l'évidence, nous en traversons une.
Absolument. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.